Donc, nous en sommes au chapitre 6 de Néhémie. Je trouve cette histoire passionnante. C'est passionnant comme une bonne série télé, n'est-ce pas? Alors, Jeannette et moi, on est très fans de séries télé. On en regarde plein de différentes. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. La première question qui me vient à l'esprit, c'est où en sont les travaux? Parce qu'on suit l'histoire des travaux au fur et à mesure des semaines, donc où est-ce que ça en est maintenant? Bon, dans la deuxième partie du premier verset, on voit tout de suite le rapport de progrès. J'avais fini de rebâtir la muraille et il ne restait plus de brèche, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque. Donc, c'est presque terminé. Plus que quelques portes à poser. Mais au fur et à mesure que les travaux ont avancé, l'opposition agit et les problèmes surgissent, n'est-ce pas? Il y a 15 jours, on a vu que les ennemis Sambala, Tobia et compagnie complotaient d'attaquer Néhémie et les Juifs. La semaine dernière, c'était des disputes internes qui posaient problème. Ok, faisons le point de là où c'en est maintenant, avec le premier verset. Lorsque Sambala, Tobia, Geshem, l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il restait plus de brèche, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les bâtons à cette époque, Sambala et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens et ayons ensemble une entrevue à Kephirim dans la vallée d'Ono. » Mais ils avaient l'intention de me faire du mal. Bon, les ennemis voient que les travaux avancent, que les travaux sont presque terminés, donc ils s'activent. Ils proposent une rencontre à Néhémie, mais Néhémie n'est pas dupe. Hein. À la proposition de cette rencontre dans la vallée d'Ono, il dit « Oh non !» Bon, continuons à voir ce qui se passe. Je leur envoyais des messagers pour leur répondre. J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournai la même réponse. Bon, Néhémie est assez futé pour refuser ce qui est vraisemblablement un guet-apens. Hein? On lui propose une rencontre au loin, à la campagne, mais il répète 4 fois la demande. Hein? Ils sont persistants. Alors, comment il répond exactement Néhémie? Il dit « J'ai un grand travail à exécuter, il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » Alors, certains pourraient prendre ça un petit peu pour de l'orgueil. J'ai un grand travail à faire pour le Seigneur. Je n'ai pas le temps pour des gens comme vous. Je ne pense pas que c'est tout à fait l'attitude de Néhémie, là. Il est appelé par Dieu pour faire ce travail important. Donc, il prend ça au sérieux, il estime que ce n'est pas le moment de prendre une pause. Et il se doute que l'invitation à une rencontre n'est pas vraiment sincère, n'est-ce pas? Qu'il se trame autre chose. Donc, là, les méchants, ils sortent les grands moyens. Une cinquième fois, Sambala m'envoyait ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les peuples des régions environnantes que toi, les Juifs, vous projetez une révolte. » Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir leur roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu le roi de Juda. Maintenant, les rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc discuter avec nous. Je lui fis répondre, rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Bon, Sambala répond, mais avec une lettre ouverte, c'est-à-dire une lettre lisible par quiconque voudrait la lire. Autant publier ça dans le journal, quoi. Et dans cette lettre ouverte, il évoque une rumeur, mais en citant la rumeur, il la fait répandre encore plus, et il lui donne de la crédibilité. Mais évidemment, c'était le but. Il accuse Néhémie de sédition, de révolte contre l'empereur. Sambala et ses copains ont vraiment tout utilisé, tout essayé pour essayer d'empêcher les travaux d'aboutir. Au départ, ils ont cherché à ridiculiser les efforts. Ensuite, ils ont comploté une attaque militaire. Et là, ils essayent de faire croire que Néhémie et compagnie veulent mener la révolution. Tout ça pour essayer d'arrêter la reconstruction de cette fichue muraille. De toute évidence, le fait que Jérusalem devienne fort et capable de se défendre, c'est une vraie menace pour Sambala, Tobia et compagnie. Mais Néhémie ne se laisse pas faire. Il ajoute, « Tous ces gens, en effet, ne cherchent qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragerions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. » Alors ça, c'est une réaction intéressante. On a déjà vu ça au chapitre 4. Je relis les versets 2 et 3 du chapitre 4. « Ils, c'est-à-dire Sambala et compagnie, se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde. » Ça, c'est intéressant. D'abord, Néhémie et ses compagnons prient, ensuite, mais tout de suite, ils agissent. Ok, que se passe-t-il après cette prière de Néhémie? Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaïa et petit-fils de Mehédébaël, qui s'était barricadé chez lui. Il s'écria. Alors, allons tenir conseil dans le temple de Dieu au fond du sanctuaire et verrouillons les portes, car ils veulent te tuer. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. Mais je lui répondis, comment un homme dans ma position prendrait-il la fuite? D'ailleurs, quel homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie? Non, je n'irai pas. J'avais bien compris que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prononcé cette prophétie pour moi, parce que Sambala et Tobia l'avaient soudoyé. Ils avaient agi ainsi pour me faire peur et pour qu'en suivant son conseil, je commette un péché. Alors, ils auraient pu me faire une mauvaise réputation et me discréditer. Mon Dieu, ne laisse pas Sambala et Tobia impunis pour leurs actes, ni Noadia la prophétesse, ni les autres prophètes qui ont cherché à me faire peur. Bon, tout cela est assez étrange, n'est-ce pas? Shemaïa, c'était un prophète. Alors, on ne sait pas trop pourquoi il s'était barricadé chez lui, c'est un peu bizarre ça. Est-ce qu'il craignait pour sa vie ou est-ce que c'était du cinéma? Parce que c'était courant que des prophètes fassent des choses extrêmes, comme s'enfermer chez eux et refuser de sortir. Bref, Shemaïa dit à Némi, ta vie est en danger. Et il l'invite à prendre refuge avec lui au fond du sanctuaire du temple. Ok ? Donc, ça peut sembler logique, mais nous, non-juifs du 21e siècle, on ne comprend pas forcément les implications de ça. Mais la réaction de Néhémie, ça nous aide à comprendre. Néhémie dit, « Quel homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie ?» Donc, il s'agit sans doute du lieu saint, comme on l'appelait, endroit, partie du temple, strictement réservé aux prêtres. Néhémie aurait commis un sacrilège grave en allant dans cette partie du temple. Donc on comprend pourquoi il refuse immédiatement. Donc toute cette histoire de se réfugier au temple était montée de toutes pièces par Sambala et Tobia. Ils ont donné un pot de vin au soi-disant prophète pour qu'il raconte à Néhémie ce que eux voulaient. C'est très sournois, n'est-ce pas? Si Néhémie avait pris suffisamment peur pour accepter d'aller dans le temple, ça aurait donné à ses ennemis un chef d'accusation vrai. Ils auraient pu le traîner en justice si Dieu ne l'avait pas déjà frappé de mort quand il était dans la partie du temple où il n'avait pas le droit d'aller. Et ça aurait donné le coup de grâce à sa réputation. Heureusement, Néhémie avait tout compris. Bon, l'histoire continue. La muraille fut achevée en 52 jours. Le 25 du mois d'Eloul, c'est-à-dire, selon les notes que j'avais lues, le 3 octobre 445 avant Jésus-Christ. Donc, on n'est pas loin de l'anniversaire. Intéressant. Lorsque nos ennemis la prirent, tous les peuples étrangers qui nous entouraient furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pas pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Bon, c'est vrai, avec la technologie de l'époque, compléter toute la muraille en 52 jours, c'est étonnant. Certains historiens pensaient que c'était physiquement impossible. Bon, pas tout à fait quand même. D'autres qui ont bien étudié pensent que c'était plausible. Bon, diverses raisons. Déjà, la muraille n'était pas à refaire entièrement, mais juste une bonne partie. Et aussi, une bonne partie, c'était que des portes manquaient. Et la fabrication de portes en bois, c'est relativement rapide. Mais en fait, ça n'aurait pas été étonnant que la muraille se complète en 52 jours, que la compagnie de Néhémie aurait pu tout faire, si on les avait laissés tranquilles, n'est-ce pas? Ce qui tient du miracle, en réalité, c'est qu'ils ont reconstruit la muraille malgré toute l'opposition qu'il y avait et qu'ils aient été capables de déjouer tous les coups fourrés des opposants. C'est ça, pour moi, qui est le plus miraculeux dans l'histoire. Parce que même les païens ont été obligés d'avouer que c'était grâce à Dieu qu'ils ont réussi l'affaire. Et on termine le chapitre en lisant que les notables de Jérusalem étaient tout le temps en correspondance avec Tobia et que lui continuait à envoyer des lettres d'intimidation à Néhémie. Bon, quelle histoire, hein ? Menaces, intrigues, complots. Ça ferait un bon film d'action, hein ? Presque d'espionnage. Alors, qu'est-ce que nous, on peut apprendre de cette histoire ? Pour moi, les tactiques des ennemis et les réponses de Néhémie, c'est ça notre enseignement d'aujourd'hui. Regardons ça. Tactique 1, la ruse. Ils essayent, par la ruse, d'avoir Néhémie, viens nous rencontrer dans la vallée d'Ono. C'est juste une rencontre. Mais ça sent quand même le traquenard. Hein. Et Néhémie voit bien ça et il refuse. Mais chose intéressante, sa manière de refuser, c'est qu'il ne dit pas « Ah, vous voulez me tendre une piège, bande d'abrutis ?» Non. Il répond de manière calme, neutre, même cordiale, mais vrai. Il dit « Je suis en train de faire un grand travail. » Il dit à la fois « Je n'ai pas le temps en ce moment et le travail est trop important pour que je prenne une pause maintenant. » Alors, qu'est-ce que ça nous apprend ? Lors d'un projet comme l'idée d'agrandir l'église ici, il va y avoir des opposants. Et on peut se méfier de leurs intentions. Mais, au moins au début, ce n'est pas nécessaire de les prendre de front. On leur répond de manière cordiale, mais attention, on ne devient pas naïf dans tout ça. Ok, deuxième tactique, la fausse accusation. Les ennemis accusent publiquement Néhémie de sédition, de vouloir renverser l'État. Et ils enrobent ça en disant « bah, on ne fait que répéter une rumeur ». La réponse de Néhémie. Il réagit et dit clairement que l'accusation est fausse. Nos détracteurs peuvent se tourner vers la fausse accusation. Là, généralement, il y a lieu de chercher à réfuter les accusations. Tactique 3. Il soudoie un soi-disant prophète pour essayer de tromper Néhémie et de l'inciter à faire quelque chose, à commettre ce qui revient à un sacrilège grave. La réponse de Néhémie, il refuse le compromis, il voit bien que ce qu'on lui propose, c'est un péché, et il refuse de le faire, même pour un cas de force majeure. Alors, en quoi ça peut nous concerner, ce genre d'histoire ? Moi, je dirais, faisons attention à nos idées de solutions dans des cas d'urgence. Ne cédons pas à la tentation de résoudre un problème avec quelque chose de douteux. Par exemple, imaginons qu'il y a une urgence dans la famille et qu'il y a besoin d'une somme importante de l'argent qu'on n'a pas. On pourrait avoir l'idée de faire une réclamation aux assurances pour quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. Attention, ça pourrait être considéré comme de la fraude. Donc ne cédons pas à cette tentation d'adopter des solutions louches pour des urgences. Bon, pour clore cette histoire, le chapitre 6, la muraille se termine en un temps record. Les ennemis sont couverts de honte et avouent eux-mêmes que c'est Dieu qui a tout fait. Bon, en résumé, tous les efforts des ennemis reviennent à une seule chose véritable, une seule vraie tactique, l'intimidation. Ils cherchent à intimider Néhémie pour qu'il abandonne, pour qu'il recule, pour qu'il abandonne le projet. Alors, intimider, j'ai regardé dans l'ours en ligne, définition, remplir quelqu'un de peur en usant de force, de menace. Et c'est clair que Sambala et compagnie utilisent la menace pour dissuader Néhémie de compléter la muraille. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, Jeannette et moi, on est très fans de séries télé et on en regarde une en ce moment avec des avocats. Et l'intimidation, alors là, c'est une tactique qu'utilisent les avocats tout le temps. Ils essayent de faire peur et de faire reculer les opposants. Chose intéressante, ces arguments sont plus ou moins basés sur la vérité selon les cas. C'est souvent basé sur de la pure mensonge, mais ça peut être aussi simplement l'exagération de détails de vérité bien au-delà de leur véritable importance. Donc ça peut être à moitié vrai, mais exagéré. Alors, comment est-ce que Néhémie affronte l'intimidation? Première chose, il n'est pas naïf. Il dit tout clairement, ils avaient l'intention de me faire du mal. Parfois, il y a lieu de se méfier de certaines demandes qui peuvent sembler innocentes. Bon, j'ai une histoire un petit peu drôle. J'ai un ami qui, il y a longtemps, était employé civil dans une base de l'armée américaine en Allemagne, mais c'était en pleine période de guerre froide. Alors, il connaissait un Russe qui habitait le coin. Et un beau jour, le Russe débarque chez lui et dit « Ah ben, j'ai un cadeau pour toi !» Alors, il sentait que ce gars-là cherchait à avoir d'éventuelles informations sur ce qui se passait dans la base. Alors, mon ami, avec humour, a répondu en lui faisant une présentation de l'Évangile au grand complet, en y allant avec les gros sabots, en disant « Mon cher ami, vous avez besoin d'être lavé dans le sang de Jésus et tout le Bataclan. » Alors le Russe l'a laissé tranquille après. Hein. Donc, attention, n'exagérons pas ce principe. Tout le monde n'est pas contre nous, tout le monde ne nous en veut pas. Tout le monde ne cherche pas forcément à nous mettre des bâtons dans les roues. Ça arrivait, mais attention à ne pas exagérer comme ce principe. Deuxième chose que Néhémie fait, il prie. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Il ne prie pas simplement « soulage-moi de mes problèmes », mais « donne-moi la force pour continuer ». Bon, j'ai un tout petit exemple. Lors d'un projet d'évangélisation il y a des années, on avait un problème avec une clé coincée dans une porte dans le centre où on était. On ne savait pas comment faire et on était vraiment embêtés. Heureusement, quelqu'un du groupe a eu la bonne idée. Prions. Et évidemment, la clé s'est décoincée tout de suite. N'oublions pas la prière. Bon, également, Néhémie fait preuve de discernement spirituel. Alors, je ne parle pas d'une sorte de pensée un peu mystique qui nous tombe sur la tête comme ça, mais plutôt d'un bon sens spirituel et biblique. Dans une situation d'urgence, comme Néhémie avait eu, et qu'on nous propose une solution qui pourrait être douteuse, posons-nous la question. Qu'est-ce que Dieu penserait de cette situation? Est-ce qu'il y a clairement quelque chose qui est contraire à la Bible dans la solution qu'on me propose, oui ou non? Donc, bonne vérification à faire. Hein, donc, discernement. Et finalement, Néhémie reste ferme dans ce que Dieu l'a appelé à faire. J'ai un grand travail à exécuter. Si nous sommes sûrs que Dieu veut que nous fassions quelque chose, soyons persévérants. Allons jusqu'au bout. Et c'est ce que Néhémie a fait. Il est important d'être sûr que le projet en question est bien le projet de Dieu. C'est pour ça que nous prenons toute cette période de réflexion et de calcul par rapport au projet d'agrandissement de l'Église. On va être sûr et certain que c'est bien le projet de Dieu. Mais la certitude de l'appel de Dieu nous donne une confiance indispensable pour avancer. Une dernière petite chose, des fois l'intimidation ne vient pas de personne autour de nous, mais arrive dans notre tête, et là c'est l'ennemi qui nous envoie des pensées, « Oh, t'y arriveras jamais !» Bon, nous, on a vécu deux dégâts des eaux dans deux semaines, et c'est vrai, j'ai eu du mal avec certaines pensées, « Non, mais t'arriveras pas à faire résoudre ça à temps !» et tout, mais non. J'ai eu la bonne idée de prier, et je pense que les choses vont se résoudre. Et ça, c'est, je pense, ce que nous, on peut faire aussi. On prie, on fait ce qu'on peut faire, et on avance. Prions. Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Néhémie, de te faire confiance, de prier et d'avancer. Amen.